Alors, nous arrivons à la fin de ce beau colloque de deux jours, dont nous ne sortirons pas indemnes parce que c'était d'une grande... C'est bon, je crois, Ivani ? On m'entend ? Voilà. Dont nous ne sortirons pas indemnes parce que c'était vraiment quelque chose d'extrêmement créatif. Moi, j'ai été personnellement bluffée, si le terme est adéquat, par la diversité, le dynamisme, la créativité, l'inventivité des diverses recherches présentées. Vraiment. Et je trouve que c'est une rencontre. Voilà, l'image qui me vient, c'est quelque chose comme ça. C'est beau et j'espère que ça va porter des fruits. Et je pense que ça a déjà porté des fruits. Alors, je ne vais pas parler plus pour dire des banalités en plus. Voici ce que nous vous proposons pour finir. Cette séance, ce colloque. Nous allons d'abord donner la parole à Gilmar, qui est présent ici et qui a beaucoup de choses à nous dire, donc on va commencer par cela. Ensuite, comme proposé, nous allons ouvrir un espace de discussion, parce qu'il nous semble bien qu'il y a eu des questions qui ont été un petit peu retenues et frustrées. Donc l'idée n'est pas du tout que nous y répondions, mais qu'il y ait un échange questions-réponses dans la salle. Ce n'est pas forcément nous qui aurons les réponses à vos questions. Et puis finalement, nous laisserons Ivani, notre belle Ivani, conclure complètement, clôturer les deux jours. Voilà, donc je passe tout de suite la parole à Gilmar.
Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais tout d'abord saluer mes collègues de la table ronde, saluer nos collègues des universités ici présentes, leur communiquer notre joie au nom de l'Université fédérale du Pará, université que j'aide à diriger comme vice-recteur. J'ai l'honneur de dialoguer, donc d'être ici présent. Et je rappelle que cet événement donc une grande référence dans l'état du Pará. Donc tous les débats ont commencé par l'intérieur, hein, donc dans le Marajó. Nous avons l'honneur, nous avons eu l'honneur de recevoir des collègues français, hein, qui sont venus, qui se sont déplacés avec le professeur Louisette, qui était à l'époque la coordinatrice de ce campus et qui nous a permis un dialogue important sur l'inclusion. Hein, tout d'abord concernant les sourds, donc c'était un grand débat en 2007 et le moment où au Brésil ce dialogue était effectivement d'actualité, hein, et dans notre université, c'était le cas également. Alors, nous avons des spécificités concernant l'université brésilienne, étant donné que c'est l'université de l'Amazonie, l'une des plus grandes universités brésiliennes et la plus grande d'Amazonie, avec plus de 50 000 élèves divisés en 12 départements. Hein. Et donc, ce dialogue concernant au fait d'avoir des cursus d'interprètes dans les diplômes. Hein. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau. Hein. Et donc, et grâce à l'engagement de beaucoup d'acteurs, hein, présents, nous sommes parvenus à un dialogue, hein, qui, pour nous, est un très, très grand défi, hein, et surtout pour notre université, où nous avons depuis 2009 un cursus de Libras, hein, et avec des enseignants sourds et tout un ensemble d'interprètes que nous engageons, hein, et qui n'arrivent pas encore effectivement à répondre aux besoins de toute l'université, étant donné que c'est une très très grande université, mais qui a vraiment beaucoup de cursus. C'est un défi que nous devons encore relever. Hein. Alors, outre ces points que je viens de souligner, le cursus de Libras et tout le débat autour de l'enseignement avec leurs traductions respectives, tout ceci nous a permis de construire un dialogue très, très important sur l'inclusion d'une façon générale. Lorsque nous parlons d'inclusion dans un pays développé, nous parlons beaucoup d'inclusion de personnes déficientes et d'une façon générale. Lorsque nous parlons d'inclusion au Brésil, en Amérique latine, en Afrique, nous devons parler des problèmes qui concernent le racisme, les problèmes liés au combat contre l'homophobie, les problèmes liés aux populations ribeirinhas. Donc, notre cas au Brésil, donc des politiques donc où nous devons effectivement, c'est un dialogue que nous approfondissons et c'est lié à un problème au Brésil que nous vivons. Et voilà, vous êtes tous au courant et vous savez les moments et nos attentes, n'est-ce pas, concernant les professeurs universitaires en tant que citoyens dans ce pays après le 28 octobre. Comment est-ce que nous allons pouvoir travailler et dialoguer avec nos collègues des autres universités? Alors, c'est un défi de réfléchir sur la question de l'inclusion. Nous pensons de façon très profonde sur les campus. Nous avons 12 campus dans ces 50 parmi ces 56 000 élèves qui sont répartis dans ces 12 campus. Et ce sont des campus qui sont effectivement répartis donc avec une distance de 1000 km l'un de l'autre. Altamira a été effectivement une distance de 1000 km avec la capitale de Belém. Et donc, c'est effectivement un challenge d'aborder cette distance. Et pour placer ces jeunes dans l'université, c'est déjà un processus d'inclusion très, très important puisqu'il n'y a aucune garantie dans la société brésilienne que la plupart des jeunes aient accès effectivement à l'université et qu'ils rentrent à l'université. Alors, ce défi de comprendre toute cette dynamique concernant l'accès d'une façon générale à l'université, tout ceci s'insère et a une référence très importante dans ces questions spécifiques telles que, par exemple, la question de l'enseignement des sourds, des questions telles que donc les personnes avec des handicaps physiques les plus diverses. Nous qui devons les recevoir dans les universités, alors devons faire face à ces défis. Très souvent, l'enseignant lui-même n'est pas préparé à les recevoir, recevoir ces étudiants. Donc, c'est un très, très grand défi. Nous avons assumé le rectorat de l'université il y a 2 ans et nous travaillons dans toute une politique afin d'une politique d'inclusion. Alors, tout d'abord, nous avons une aide afin s'occuper de ces handicapés, de ces personnes handicapées. Nous travaillons auprès du cabinet du directeur afin de nous occuper de l'inclusion d'une façon générale, l'intégration de ces étudiants. Alors, ceci englobe les personnes handicapées, les communautés noires, les communautés indigènes. Dans nos États du Nord, la population indigène est très conséquente. Nous avons avancé dans une politique de quotas pour ces personnes, post-doc et le doctorat, post-doctorat, les premiers docteurs indigènes des universités. Je vois les collègues de Santa Catarina. Nous avons un élève indigène de Santa Catarina qui défend sa thèse ces jours-ci. Alors, ce sont des résultats très, très positifs pour cette région, avec des défis que nous relevons tous les jours. Je suis très, très heureux qu'ensemble, nous puissions dialoguer avec des personnes avec des expériences beaucoup plus élevé. Alors, lorsque j'écoute nos collègues, notamment les collègues français, les collègues de l'étranger, d'autres pays également plus pauvres. Alors, je pense que notre référence est de dire que nous sommes très en deçà dans cette politique, puisque nous n'avons pas encore réussi à intégrer les personnes handicapées. Alors, notre tâche, outre le fait de comprendre, et nous avons fait effectivement, nous avons toute une base de données, de lois pour l'inclusion Europe. En vue de cette inclusion, quelque chose qui est fondamental, c'est le fait de pouvoir mettre en pratique ces questions, de faire en sorte de concrétiser ces actions que nous, sur lesquelles nous avons réfléchi et mettre en place des dynamiques qui nous permettent de dialoguer du point de vue académique, mais également politique, afin que ces personnes agissent à nos côtés et afin que nous puissions réfléchir, penser ensemble une société où nous devons apprendre avec l'inclusion et surtout pour les gens, les personnes qui ont appris de façon plus génétique et non de façon sociale. Merci beaucoup.
Donc maintenant, s'il y a des personnes qui avaient des questions ou des commentaires, des réactions par rapport aux deux jours très très denses que nous avons vécu, n'hésitez pas. Donc on vous passe un micro ou bien vous venez. Dans tous les cas, on vous demande de venir plutôt sur l'espace scénique de manière à ce que votre image passe à la captation vidéo. Merci.
Je m'adresse à la personne qui a fait un exposé sur la présence des interprètes à l'université. Ah, voilà, très bien. Bon, il semblerait que vous ayez fait dans votre université le choix d'avoir des interprètes en permanence dans l'université, qui soient donc des fonctionnaires. Ce n'est pas le choix qui a été fait en France dans la plupart des universités. Je parle en ce qui concerne l'enseignement, parce qu'il peut très bien y avoir des interprètes effectivement fixes pour tout ce qui est administratif, mais pour ce qui est de l'enseignement, qu'est-ce qui vous a fait choisir cette stratégie plutôt que de faire appel à des services externes à l'université ? Et puis peut-être la question s'adresse aussi à Florence. Quels seraient les avantages et inconvénients de chaque stratégie ?
A opção dos concursos públicos.
La possibilité des concours publics au sein de l'université se pose en fonction des lois qui existent. Et au Brésil, il existe une réglementation et il faut que des postes soient ouverts au travers de concours publics dans le secteur administratif. Et il est vrai que nous en avons également besoin, car la politique d'inclusion au Brésil est permanente. Il y a de plus en plus de croissance dans la participation des cours des sourds à l'université. Et justement, cela est lié à la croissance du nombre d'interprètes. Donc nous ne travaillons pas avec des interprètes temporaires. C'est un autre type de processus. Nous avons créé des espaces d'accessibilité et les sourds vont de plus en plus à l'université. Ils sont présents à tous les niveaux des études supérieures. Nous avons des postes pour les sourds, même au plus haut niveau. Et dans notre cursus, le principe est vraiment de faire en sorte que les sourds soient le plus présents possible, de façon à les autonomiser. Mais cela s'est fait également grâce à l'expansion de notre service d'interprétation. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?
Oui, pour te répondre, Christian, moi je rêve quand je vois Madame parler. Parce qu'en fait, pour moi, la meilleure solution, c'est d'avoir des interprètes en interne. Alors évidemment, je ne sais pas si les règles sont plus sévères en France ou au Brésil par rapport au statut de... Mais en France, c'est un contrat à vie. Donc peut-être qu'au Brésil, ce n'est pas forcément la même chose. Donc en France, ils font très très attention à ne surtout pas embaucher de personnes en contrat à vie, et encore moins des interprètes. Mais si on pouvait avoir 19 interprètes ici à Paris 8, ça serait le rêve. Ça deviendra enfin la galodette française. Mais après, bon, l'argument principal qu'on nous oppose, c'est qu'il n'y a pas de quoi occuper les interprètes tout le temps, puisque les cours s'arrêtent en avril et qu'ils reprennent en septembre. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Il y a tout le travail administratif qu'elle a bien expliqué. Ça ferait largement de quoi embaucher au moins 2 interprètes. Mais bon, voilà. Après, tu peux ajouter.
Je voudrais Je vous ajoute un point pour compléter, c'est que tout simplement, il n'y a pas de statut en France qui permette d'embaucher les interprètes.
Non. Brigitte, il faudrait commencer.
Oui, je disais simplement qu'il n'y avait pas de statut en France qui permette d'embaucher, avec le titre d'interprète en langue des signes, des gens à l'université. C'est tout. Donc sinon, nous l'aurions fait. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi le problème de la souplesse qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas deux interprètes, mais effectivement 20, de manière à ce qu'ils puissent tourner et s'adapter, parce que les sources sont libres d'aller où ils veulent, aussi bien en art qu'en littérature, qu'en sciences du langage, qu'en histoire, qu'en psycho, avec des plannings qui sont différents. Donc un interprète n'est pas là en continu, en passant, voilà. Donc c'est assez complexe, et croyez-moi, on a tout étudié vraiment depuis des années à Paris 8 pour essayer de faire embaucher des gens, et on n'y arrive pas.
Oui, effectivement, il n'y a pas de statut, mais on pourra les embaucher en CDI quand même. Alors évidemment, ça ne serait pas fonctionnaire, et pas de la même chose, ce n'est plus un contrat à vie, mais c'est presque pareil. On peut les embaucher comme contractuel un an, et puis au bout de six ans comme contractuel, ils deviennent en CDI à l'Institut National des Jeunes Sourds. Les interprètes sont en CDI, même s'il n'y a pas de statut, donc ça c'est formidable. Donc si on pouvait avoir la même chose à l'université, évidemment... C'est sur un intitulé interprète.
Eu gostaria de fazer esclarecimento.
J'aimerais ici éclaircir la question qui a été posée par le professeur Cuxac. C'est la législation brésilienne qui a donné leur élan aux politiques publiques brésiliennes et les cursus dont le lettre Libras ont commencé à devenir de plus en plus nombreux. Grâce à cela, nous avons 290 enseignants sourds avec des postes effectifs au sein des universités grâce à cela. Et ces enseignants sourds qui ont des postes en CDI, et le professeur Ronis en a parlé également, ont la responsabilité de mener à bien leurs recherches, des projets, des activités. Tout cela est fait par les enseignants sourds. Et donc, c'est ainsi que se fait l'inclusion. C'est grâce à ces 290 enseignants sourds qui se trouvent au sein des universités. Et donc, il y a de plus en plus de demandes pour des interprètes et ils sont donc recrutés. Dans les réunions de département, dans toutes les réunions, dans les rassemblements entre pairs, dans le rectorat, les interprètes doivent être constamment présents car les sourds sont également présents. Dans notre programme d'enseignement supérieur, il y a eu une grève. De nombreux sourds faisaient des doctorats et les interprètes ne parvenaient pas à répondre à toutes les demandes qui existaient. Donc il y a une conscience politique de la part des enseignants de linguistique qui ne sont pas forcément de l'ère du domaine des Libras. Mais ils ont arrêté également, ils nous ont accompagnés dans la grève, et ils nous ont suivis et donc il y a eu un recrutement qui a été fait, un recrutement d'urgence de façon à répondre aux droits linguistiques de ces élèves. Donc les interprètes suivent les demandes des individus sourds.
Et ce que me semble une grande différence par rapport au Brésil, mais c'est bien l'éclaircissement de Marianne maintenant, et c'est que la logique en France est une logique d'accessibilité et que le fait que les interprètes des langues des signes soient présents dans les universités, c'est mettre un interprète des langues des signes quand un étudiant qui veut aller étudier quelque part a besoin d'un interprète. Et c'est cette logique d'accessibilité pour le handicapé fait qu'on n'arrive pas à avoir un statut, comme tu dis Brigitte, pour les interprètes, etc. Ce n'est pas la langue des signes qui est en jeu, c'est l'accessibilité aux études. Et cette logique-là, c'est complètement, il me semble, je ne dirais pas l'opposé, mais très, très différente au Brésil. Le Brésil, dans sa perspective politique d'inclusion, c'est une inclusion linguistique où c'est la langue des signes qui est au cœur de la question. Donc, combien de doctorants sourds il y a au Brésil? Ici, en France, on n'arriverait même pas à un siècle former tous les docteurs sourds qu'il y a à l'université au Brésil. Ça ne se fait pas avec une logique pure et simple d'accessibilité. C'est véritablement une logique des politiques linguistiques qui a fait le Brésil. Malheureusement, pas avec... on va voir ce qui va se passer, mais Bon, j'espère que vous allez tenir et que ces luttes de la communauté sourde brésilienne vont continuer à tenir fort. On est là avec vous.
Oui.
Ah, pardon, je profite pour dire une chose. Excusez-moi. Je voudrais, parce que depuis hier matin, je pense à non seulement à l'avancée, et là je vais quand même dire quelque chose de positif de ce côté-là, de la France, c'est qu'on a beaucoup vu les recherches et pionnières, les recherches linguistiques qui se sont faites en France et le cadre épistémologique, linguistique dans lequel nous, une bonne partie des chercheurs ici en France développent ces recherches à partir des travaux de Christian Cussac et l'équipe de Paris 8 notamment. Mais il me semble qu'il y a une question très importante qui n'a pas peut-être trop été mise en avant. Et c'est que cet engagement, non seulement l'engagement politique qui était présent dans le discours de Christian quand il parlait de la démarche pour élaborer les corpus, etc., il a aussi à voir à quelque chose de très important qui est la formation, justement, des professeurs de langue des signes sourds qui ont passé par cette université. On a, je ne sais pas combien, mais je pense qu'on doit être à 300, 400.
140.
Combien?
400 en tout.
Ouais, avec des PC. Voilà. 140 diplômés en licence professionnelle, ouais. Et 250 à peu près en DPCU, donc niveau Bac plus 2, professionnel d'enseignement de la langue des signes, et une quinzaine de masters sourds et quelques doctorants sourds.
Et donc je dis que je pense que c'est très important de mettre ça en lumière parce que ça veut dire que malgré le fait que la politique ici en France est une politique, une logique d'accessibilité où on pense au handicap avant de penser à la langue, etc., malgré tout ça, mais il y a des efforts qu'on ne peut pas séparer entre la recherche scientifique et l'avancement de la communauté sourde dans la société. Tout va ensemble et on n'arrive pas à faire la recherche autrement qu'avec cette implication politique forte. Et voilà. Et donc je pense que c'est important de le mettre en lumière parce qu'on a vu déjà des conférenciers sourds, doctorants, qui n'ont pas pu, disons, qu'ils ont là grâce aussi à ces développements, à cet engagement politique de la recherche qui est une caractéristique de l'équipe de Paris 8. Donc je me sens très proche puisque j'ai été formée ici. Merci.
Eu ouvi o professor Cuxac falando.
J'ai pu écouter le professeur Cuxac prendre la parole, parler de l'UFSS, qui est notre référence au Brésil. Nous avons d'ailleurs copié ce modèle et nous n'y avons que deux interprètes. Donc nous avons aussi des problèmes dans d'autres endroits au Brésil. Il y a des enseignants entendants qui enseignent. Par exemple, dans notre département, dans notre département d'éducation, nous avons des enseignants qui donnent des cours de psychologie, de didactique, de mathématiques, et qui ne sont pas du domaine de la langue des signes. Et ils ont des entendants qui ne signalisent pas. Donc, c'est problématique, car nous n'avons pas suffisamment d'interprètes pour pourvoir à ces demandes. Il nous faut des interprètes pour accompagner le coordinateur lorsqu'il va rencontrer les élèves sourds. Par exemple, Girlaine, qui a fait sa présentation et qui fait un master en linguistique. Nous avons un autre sourd qui fait un master. Donc, nous avons, par exemple, 24 élèves sourds au sein de notre université qui participent à des activités complètement différentes et deux interprètes pour répondre à leurs demandes. Donc, si l'on regarde uniquement la UFSC, c'est une réalité bien différente de celle des autres universités au Brésil. Donc, c'est notre référence, mais nous avons également des difficultés dans d'autres endroits. Donc, c'est tout un processus. Nous exerçons pression sur le rectorat pour qu'il crée de nouveaux concours et pour qu'il augmente le nombre de postes pour avoir plus d'interprètes. Mais le ministère de l'Éducation est un peu fermé à ce type d'éventualité. Et maintenant, nous sommes inquiets. Comment faire en sorte que ces élèves, pour lesquels nous avons déjà accepté à l'université, aient accès à ce service? Mais je pense que la loi a été très, très importante, car elle a permis d'ouvrir des concours, de lancer des appels d'offres. Mais nous avons encore d'autres conquêtes à d'autres niveaux à réaliser. C'est vrai que dans l'UFSC, nous avons une première initiative de création de postes professionnels avec 30 enseignants, 18 étudiants sourds. Nous sommes une référence, nous utilisons beaucoup la langue des signes, mais j'ai pu voir qu'au Brésil, en général, si vous prenez des exemples ici ou ailleurs, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut qu'au sein des universités, il y ait un processus d'acceptation des sourds. Par exemple, à l'UFC, dans le Ceará, récemment, nous avons lancé le cursus de lettres et libras en 2014. Donc, nous avons 10 enseignants sourds qui sont en poste. Donc, tout va dépendre de la politique interne. Il y a la loi, bien sûr. La législation est là pour nous soutenir. Il y a la politique linguistique. Mais au sein de l'université, les personnes sont fermées et elles essayent d'entraver ce processus. Donc, nous avons réussi à créer des postes, mais le gouvernement est toujours là, par exemple, à Alagoas ou à Tocantins. Nous avons 8 enseignants sourds dans cet état du Brésil. Donc, il ne faut pas trop se baisser les bras. Nous, les enseignants, les chercheurs, nous sommes responsables du changement de cette réalité. Il faut rejeter un système traditionnel qui répète constamment les mêmes choses et qui ne respecte pas la langue des signes. Qui commande? Qui dit que cela doit être comme cela? Nous avons créé une loi, une réglementation, mais elle n'est pas tout à fait mise en pratique. Donc, il faut vraiment changer les universités de l'intérieur. Et la participation des sourds va être réduite si nous rencontrons d'autres obstacles. De nombreuses portes sont fermées aux sourds. Car précisément, les langues des signes sont négligées. Donc, il faut continuer à lutter pour faire en sorte que les sourds soient plus présents au sein des universités et jeter à bas ces obstacles. C'est cela que nous devons combattre.
Concernant les lois et la législation au Brésil et la législation existante en France, il y a la loi du 11 février 2005 en France. Au Brésil, ça a changé en 2007, où il y a eu plus une indication au sein de la Constitution où on parlait de l'obligation de la langue des signes. Nous, on fait partie de la loi concernant les handicapés. Notre existence existe à travers la loi pour les handicapés, alors que au Brésil, la langue des signes existe non pas avec les handicapés, alors qu'en France, si. Et c'est ça qui pose problème. Justement, on parlait tout à l'heure d'accessibilité. Et c'est un problème, justement, c'est qu'on a un problème d'accessibilité eu égard au handicap. Et c'est pour ça qu'on a très, très peu en France de professeurs au sein des universités. Et alors effectivement, il y a aussi une question de géographie. La France est un petit pays par rapport au Brésil, mais ce n'est pas le seul problème.
bien rápido. Je pense que.
Alors, très rapidement, je n'ai pas la prétention de répondre à vos questions, mais j'aimerais tout simplement vous porter ma contribution. Je pense que les sourds ont eu un rôle stratégique dans la politique d'inclusion au Brésil, notamment au travers de la législation. La législation a un rôle stratégique, mais la législation ne précède pas la lutte. C'est le contraire, c'est la lutte des sourds et de la population qui les soutient qui a fait que la législation a été mise sur pied. C'est la lutte qui a été à l'origine de la loi. Et nous avons des défis tous les jours qui se posent à nous. Sur l'ensemble des handicaps, je pense que ce sont les sourds qui ont réussi à avancer le plus dans le sens de créer une législation qui leur est propre et qui les protège. Ils ont la législation qui les protège. La législation portant sur les autres handicaps est bien plus large, plus floue. Je pense que la situation au sein des universités brésiliennes s'est beaucoup améliorée. Vous avez la possibilité de recourir à des interprètes, mais ce n'est pas que cela. Vous pouvez également... Là, on parle d'université, mais il y a des jeunes analphabètes et un large pourcentage de jeunes analphabètes qui ont besoin d'être intégrés. Par exemple, dans l'État du Pará, l'université est en train de former des enseignements dans la municipalité d'Altamira, qui est une des plus grandes municipalités du monde, en commençant par alphabétiser les gens. Car il est tellement difficile d'atteindre cette communauté qu'il faut commencer par cela. C'est un endroit qui est coupé du reste du monde. C'est une communauté très difficile d'accès. Il faut prendre un bateau pendant 24 heures pour parvenir jusqu'à ce lieu. Donc c'est un vrai défi. Je vous donne cet exemple pour que vous voyez combien il peut être difficile de faire de l'inclusion au Brésil. Mais il y a eu des conquêtes très, très importantes. Lorsque je me rends dans notre université et que je constate qu'à chaque événement, il y a une traduction simultanée, pour ceux qui sont plus âgés comme moi, qui connaissent les universités depuis longtemps, eh bien, ces personnes savent que cela fait à peine 10 ans que c'est comme cela. Aujourd'hui, les gens viennent nous voir. Ils disent, nous allons faire cet événement, nous allons donner un cours, une conférence. Et cet événement est uniquement autorisé s'il y a une traduction simultanée. Et c'est relativement nouveau au Brésil. Cela fait à peine quelques années. Si vous regardez bien, lors des dernières élections, on traduisait déjà les prises de parole des candidats. Mais c'était la première fois que l'on a exigé que toutes les prises de parole soient traduites en libras. Donc il s'agit de conquêtes et d'éléments très importants. Bien sûr, il y a toujours des limites. Il faut constamment être vigilant pour ne pas perdre ses acquis. Et je pense que justement, il faut continuer à lutter pour l'inclusion. Ce n'est pas facile. On arrive à l'Institut, on vérifie qu'ils ont des traducteurs. Ils nous disent « c'est difficile, c'est cher ». Et puis, il faut réussir à leur expliquer que tout cela n'a pas de prix. Il faut faire en sorte que tous les étudiants, tous les partenaires soient intégrés. Notre principale tâche au sein des universités brésiliennes est de promouvoir ces actions, de leur donner une visibilité. Nos jeunes, nos élèves, nos étudiants, notre communauté handicapée, en dehors des actions en elles-mêmes, doivent être promus. Au sein de notre université, nous avons lancé une initiative, justement. Chaque groupe de ce type a une structure, un bureau pour dialoguer avec le recteur, le vice-recteur, avec les peuples autochtones, avec les peuples de couleur noire. Nos étudiants africains, par exemple, ont leur propre bureau où ils peuvent recevoir des personnes, où ils peuvent recevoir les demandes, où ils vont nous chercher pour créer un dialogue. Et cette expérience a vraiment été très importante. Et les bénéfices en ont été multiples dans notre université du Pará. Une fois de plus, je vous remercie. Je pense que nous suivons la bonne voie. Et nos collègues des autres universités aussi, en portant ici des questions si importantes. J'ai dit ce matin à Mariani que j'avais pu développer un handicap depuis hier, car je parle les quatre langues. Donc, à des moments, je parle français à un Brésilien, portugais à un Français. Je suis très, très confuse. Donc, j'ai l'impression que je n'ai plus de limites dans mon esprit, en tout cas de limites linguistiques. Donc, je suis effectivement très affectée, et ce, depuis hier. Je savais que ce serait très intense. Mais bon, cela suit son processus. Nous arrivons au terme de la deuxième journée de notre rencontre. Nous allons donc rester ensemble jusqu'à vendredi. L'intitulé de cet événement provient justement de cette force que Gilmar vient de nous présenter. Cette force qui est pleine de détermination et qui provient de l'université de Pará et qui nous a permis de réunir 5 États du Brésil ici, et ce grâce à l'ouverture, à l'acceptation. Lorsque nous avons parlé de cette rencontre et Frédéric Brossier nous a dit que nous pourrions accueillir un groupe pendant les vacances. Donc il y a eu tout un partage de possibilités, un accueil. Et je pense que cela représente l'avenir. Le fait de pouvoir échanger de façon égale. Il y a ce mot en français, équitable. Avec toutes ces compétences, car ce que j'ai pu voir aujourd'hui, si nous comparons la situation actuelle avec celle d'il y a 30 ans, nous constatons que 30 ans plus tard, le travail a été fait. Les références sont là. Et c'est réellement fascinant de voir que cette lutte se poursuit. Et aujourd'hui, le monde est bipolaire. Il n'y a qu'opposé. Et dans notre intitulé, il y a une forme de polarité. D'un côté, singularité, de l'autre, universalité. C'est l'intitulé de notre rencontre. Qu'est-ce qui est singulier? Qu'est-ce qui est universel? En ce qui concerne la surdité et tout ce qui lui est rattaché, la langue, la culture, l'éducation, l'accessibilité. Il y a eu ce dialogue entre deux pays qui est là depuis 30 ou 40 ans. Et cela fait 2 jours que nous avons repris ce dialogue, un dialogue qui est très beau. Mariani en a parlé aussi. Il s'agit d'une vision. Une vision qui est aussi la mienne. J'ai commencé à travailler, je travaille en France depuis 20 ans, mais j'ai commencé au Brésil et je n'ai jamais réussi à lâcher le Brésil. Et grâce aux rencontres organisées par Louisette, j'ai pu me rendre au Brésil et j'ai toujours été là-bas. J'ai participé à des colloques, j'ai transmis le travail que nous faisions aussi, car je pense qu'il y a beaucoup à gagner avec ce transfert de connaissances des deux côtés. Et ce qu'a dit Ronis aujourd'hui m'a beaucoup touchée, car nous savons ce que les personnes font, mais de façon assez vague. Et j'étais très, très impatiente de savoir ce qui était fait avec le corpus de Libras, de connaître cette ouverture du réseau, toutes ces possibilités sur la question de la langue des signes au Brésil. Et donc, j'ai beaucoup apprécié voir cette réflexion faite sur les politiques publiques, sur l'inclusion, sur les communautés linguistiques, les communautés de sourds, dont a également parlé Ronis. Et l'importance de cette conscience politique, distinguer les politiques publiques et la conscience politique. Car d'un côté, nous avons des politiques publiques qui viennent du militantisme et d'une législation, mais ensuite, sur le terrain, il faut qu'il y ait une conscience. Il n'y a pas de conscience si vous ne rencontrez pas la bonne personne qui va justement promouvoir cette ouverture, comme Christian Kuksa, qui est arrivé à Paris 8 et qui progressivement a fait que les portes se sont ouvertes. Tant que ces portes ne sont pas ouvertes, tant que nous ne parvenons pas à atteindre le cœur d'autrui, et à les sensibiliser sur la question des minorités, des différences, eh bien, nous pouvons nous retrouver face à des murs. Je pense que les principales différences qui existent entre la France et le Brésil, comme l'a dit Andrea Benevuto, justement, sont axées autour de cette question de sensibilisation. La langue est une lutte. Ces personnes de première génération, ces militants ont défendu la langue et ils ont ainsi gagné en force pour par la suite créer des lois. Et il y a également autre chose que je sens lorsque je vais au Brésil. Il y a beaucoup d'ouverture. Il y a la création de la formation Lettres Libras, mais il y a aussi le fait que le Libras, la Libras, soit également obligatoire dans l'enseignement. Et j'ai été à FUP lorsque j'ai été au Brésil, une antenne de l'OIB dans l'état de Goiás. Et il y a également des choses fantastiques qui sont faites. Ils ont un département d'astronomie. Il y a un enseignant d'astronomie qui est fasciné par la Libras. Et il a suivi 6 mois de formation en Libras. Et il m'a dit, c'est incroyable, je veux enseigner aux sourds, je veux enseigner l'astronomie aux sourds en Libras. Donc la langue des signes a quelque chose de très didactique, de très visuel. Et je pense que le fait que les différentes disciplines, mathématiques, géologie, géographie, histoire, toutes soient sensibilisées à la langue des signes est une ouverture en soi. Malheureusement, cela n'existe pas encore en France. Donc, pour finir, j'aimerais vous parler de la question de l'inclusion dans les deux sens du mot. Je vais citer le chercheur et sociologue français qui a également beaucoup participé et contribué par ses idées à cette question. Il s'agit de Bernard Mottès, qui a dit que la surdité est un handicap partagé. Et nous le sentons toujours. Et aujourd'hui, j'ai été particulièrement sensibilisée à la question des entendants. Beaucoup de gens cherchaient à parler et n'y parvenaient pas. Et beaucoup d'entendants se sentent également handicapés d'une certaine façon, car ils souhaiteraient le faire et ils ne peuvent pas le faire. Et puis, je ne sais plus qui a posé la question sur les mathématiques. Et la personne a répondu, parfois on a des entendants en classe et c'est eux qui doivent être intégrés en cours de mathématiques. Et là, l'inclusion, car le processus d'inclusion est à double sens. L'autre jour, j'ai donné cours ici à l'université. Il y avait un groupe d'entendants qui ne connaissaient rien à la langue des signes. Et ils avaient une vision très floue. J'ai commencé à m'exprimer en langue des signes et l'interprète a traduit. Et ils ne comprenaient rien. Et là, je leur ai dit, l'interprète est en train de vous permettre d'accéder à ce cours. Donc, l'accès doit se faire des deux côtés. L'interprète est là aussi bien pour le sourd que pour l'entendant. Donc, la question de l'accessibilité est très importante lorsque la surdité est, donc, comme je le disais, un handicap partagé. Donc l'inclusion se fait dans les deux sens. Et l'ouverture aussi. Et l'enseignement de la langue des signes aussi. Nelson a parlé de son théâtre et du fait qu'ils ont essayé justement de rendre ce théâtre accessible aux autres. Donc il y a une frontière qui doit être préservée pour éviter cette bipolarité et ce mur. Il y a une frontière qui doit être là pour que les personnes puissent continuer à avancer. Et je vais donc finir en évoquant cette question de la complémentarité des points de vue. Beaucoup de points de vue ont été défendus ici depuis hier. Comme Chile l'a dit, Santa Catarina est notre référence, mais il y a beaucoup de réalités très différentes au Brésil. Ronis est à Santa Catarina, mais elle est un peu partout. Et j'adore ça, cette idée d'être un peu partout, malgré le fait que le Brésil représente 16 fois la France. Donc le Brésil est un exemple très parlant. Et précisément, un moment de rupture très forte au Brésil. Beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages depuis dimanche. Et il y a eu comme un tremblement de terre au Brésil. Mais je leur ai dit, je suis ici en France, tous les États du Brésil sont ici réunis et nous sommes toujours main dans la main. Donc pour moi, c'est vraiment un moment très fort. Et pour conclure, j'aimerais revenir sur la question de la complémentarité des points de vue et pas de la confrontation des points de vue. Et il y a une phrase de Gandhi également qui est très belle et que je cite. Tous les points de vue sont valides, mais peut-être sont-ils tous faux. Donc je garde cette phrase qui dit que tous les points de vue sont valides, mais peut-être sont-ils tous vrais. Et je pense que c'est vrai dans notre cas. Tous nos points de vue sont valides, ils sont vrais et nous allons pouvoir continuer à travailler en complémentarité ensemble. Merci.